Je crois que le pigeon, il doit aimer son propriétaire. Il y a les soins, c'est assez compliqué, il faut passer du temps.
Ça c'est mon meilleur ça.
Faut bien les entraîner pour les concours, pour qu'ils soient à fond quoi.
Le pigeon devient un sportif de haut niveau.
Être colobophile, c'est aimer d'abord les oiseaux, aimer la compétition, aimer la nature. C'est élever des pigeons dans le but de les engager dans des compétitions sportives. C'est tout un tas de choses qui font que le colobophile doit être toujours au plus près de ses pigeons, c'est protégé quoi.
On va voir s'ils vont gaver les jeunes. On va essayer d'aller faire gaver les jeunes.
Mon père m'a demandé si je voulais être colobophile et moi j'ai dit oui.
Monsieur Poteau-José, j'habite Denain depuis 5 ans. On a la passion des pigeons avec ma fille Arina, qui est championne de France 2015, qui était championne de France aussi en 2012, et championne Nord-Pas-de-Calais aussi. Donc elle s'occupe des pigeonneaux, vitesse, et moi je m'occupe des pigeons de grand fond, les marathons. Quoi.
On va les gaver.
J'ai commencé à 12 ans. Ça fait 48 ans, oui, quand même. J'ai toujours eu des pigeons, sauf l'année d'armée, quoi, mais autrement, j'ai toujours eu des pigeons, toujours. C'est difficile, c'est de s'en passer, quoi. J'en ai jamais eu énormément, mais j'ai toujours voulu participer au concours, tout petit déjà. Mais mon grand-père aussi, maternel, était déjà colobophile, c'était un mineur, et dans les mines, ils avaient tous des pigeons, des pigeonniers, des pigeons. Donc je suis né avec les pigeons, hein.
Alors, je m'appelle Franck Daniel, ancien mineur, 32 ans de carrière, 24 ans au fond de la mine. J'ai maintenant 67 ans. Quand j'étais très jeune, mon père, dans le jardin, il y avait un pigeonnier. Il y avait des pigeons, ils ne jouaient pas forcément au concours, mais il y avait les pigeons. Et c'était rare de ne pas voir un pigeonnier dans les jardins des mineurs. Le pigeon, pour le mineur, c'est le symbole de liberté. Vous lâchez le pigeon, il revient toujours chez lui. Le mineur descend au fond de la mine, il remonte, il revient toujours à la maison. J'ai baigné dans la colobophilie vers les années 99 par l'intermédiaire de mon beau-frère qui était mineur et qui était colobophile. Je me suis associé avec lui au début et puis après j'ai voulu voler de mes propres ailes.
Je m'appelle Bernard Monnier, je suis secrétaire de l'association Bouvinière aujourd'hui et animateur de la maison de la colobophilie et du patrimoine local.
Bonjour, je m'appelle Bernard Corot, je suis administrateur de la même association que Bernard Monnier qui gère et qui assure l'animation du musée de la colobophilie et du patrimoine local de Bouvigny. Notre cheptel a quelques couples de pigeons de race régionale qui nous ont été généreusement donnés par des éleveurs de la région en partenariat avec le Centre de ressources génétiques de Lille qui nous aide à maintenir le cheptel ici dans le musée de Bouvigny.
Alors Jean-Jacques Dupuis, je suis le président de la Fédération Colobophile Française, mais également président de la Fédération Colobophile Nord-Pas-de-Calais, et je suis l'organisateur donc du Tour de France Colobophile. Le Nord-Pas-de-Calais, c'est quand même le berceau de la colobophilie nationale. Hein. C'est grâce aux mines, aux mineurs belges qui sont arrivés chez nous au début du siècle dernier, et qui ont amené avec eux non seulement leur famille, mais aussi leurs pigeons et leurs passions. Et qui ont fait que tous les mineurs de la région Nord-Pas-de-Calais sont devenus colobophiles, et cette tradition, effectivement, date de dizaines d'années. Quoi.
J'ai 20 vieux et 12 pigeons un an. Donc ça, c'est que les mâles, parce que cette année, je ne joue que les mâles. Après, bien sûr, donc ça fait 32 à jouer, autant de femelles. Hein, ça fait 64 pigeons, 8 couples de producteurs. Donc, et puis cette année, là, j'ai sevré 15 jeunes, il y aurait eu 25 jeunes, quoi. Donc on arrive pas loin des 100 pigeons, quoi, en pleine saison. Hein.
J'en ai 10. Tous les jours, il faut gratter le pigeonnier, déjà. Après, ben, il faut leur donner à manger. Et il faut les faire voler un peu pour qu'ils s'entraînent.
À l'heure actuelle, ma colonie représente en jeunes entre 40 et 50 jeunes. Dans les vieux et un an, j'en ai pas beaucoup, j'en ai 12. Ça sert à rien d'en avoir beaucoup. Et après, j'ai mes producteurs. En gros, j'ai à peu près une bonne centaine de pigeons.
Si vous vous contentez, comme moi, d'une vingtaine de pigeons adultes, vous ne consacrez pas beaucoup de temps par jour. Effectivement, il faut être là le matin pour leur donner à manger, le soir pour leur donner à manger. Il faut consacrer un moment pour les voler. Donc on ne consacre pas beaucoup plus de temps qu'une autre passion. Effectivement, si on a par contre 200, 300 pigeons, effectivement, il faudra plus de temps pour l'entretien.
Bien, c'est vrai que les pigeons, ce qu'il faut savoir au départ, c'est qu'un pigeon peut faire 20 jeunes par an. On a fait un calcul qui fait qu'au bout de 3 ans, s'il n'y a aucune perte, si les pigeons se reproduisent, on arrive à 44 000 descendants de ce couple de pigeons, ce qui est faramineux. Donc, on s'aperçoit que dans les villes, un couple de pigeons peut exploser, je dirais, les effectifs et faire des dégâts qui sont énormes. Donc, il faut aussi limiter un peu cette prolifération. Alors, à Paris, ils ont trouvé une technique qui est pas mal, et je pense qu'à Saint-Amand, ça doit être à peu près le même, c'est qu'on fait des pigeonniers contraceptifs. Dans chaque jardin public, on crée un pigeonnier, on fixe des pigeons et toutes les semaines, les ouvriers municipaux de la ville viennent secouer les œufs ou les percer simplement. Comme ça, les pigeons continuent à couver, mais sur les 10 couvées de l'année, ça permet de gagner plusieurs générations.
Le grand public ne connaît pas forcément le pigeon voyageur, mais connaît automatiquement et forcément le pigeon des villes qui salit les monuments, qui salit les églises, qui détruit beaucoup de choses. Notre image en est salie au sens propre comme au sens figuré. Notre image de Colbophile en est salie à cause de ces pigeons des villes qui malheureusement font beaucoup plus de tort que de bien, quoi.
Je supporte pas quand c'est un pigeonnier, il peut être sale. D'abord, si je vais chez quelqu'un, le pigeonnier pas propre, je rentrerai pas, quoi. Donc il y a de l'hygiène et puis on se sent mieux. Déjà, nous, quand on se sent bien dans le colombier, les pigeons se sentent bien automatiquement. Et puis c'est un plaisir d'aller dans un truc très propre. Hein. Ça, c'est primordial, c'est de l'hygiène. Et puis après, pas surpeupler les pigeons, pigeonniers surtout. Pas avoir trop de pigeons. Il vaut mieux en avoir beaucoup moins que beaucoup trop, parce que là, ça va nuire à leur santé systématiquement. Hein.
Il y a un pigeonnier, il y a une importante colonie dans un espace minimum, parce que le pigeon, ça ne demande pas beaucoup de place. Donc, il y a beaucoup d'entretien à faire, c'est-à-dire que, quels que soient les animaux d'ailleurs, le pigeon, ben, il doit avoir un nettoyage, des désinfections, il y a tout un travail, une nourriture adaptée. C'est équivalent à toutes les races, besoin un peu d'espace et puis d'entretien. Ça, c'est les animaux, c'est indéniable.
Mais le pigeon, effectivement, doit être soigné, doit être vacciné. On est obligé de... C'est une obligation de vacciner, par exemple, les pigeons contre la paramyxovirose pour empêcher des maladies qui sont mortelles. Donc, ça fait partie des soins que doit avoir le colbophile, oui. C'est obligatoire.
Ici, pour notre cheptel, nous avons dû prendre des précautions, à savoir que notre cheptel est captif. Si notre cheptel était ouvert, nous aurions la visite de pigeons squatteurs. Et ces pigeons squatteurs, la grippe aviaire ou d'autres problèmes sanitaires, nous aurions eu des visites indésirables. Nos pigeons ici dans le cheptel du musée sont des pigeons qui sont surveillés au niveau sanitaire, qui sont vaccinés, et nous avons bien sûr là l'aide de Coulonneux qui viennent nous aider pour la vaccination ou pour le bon état sanitaire, à la fois pour le confort de nos pigeons, pour le respect de ces animaux, et aussi pour le confort de nos visiteurs, pour éviter des problèmes sanitaires.
C'est un athlète, donc il faut le suivre au quotidien, quoi. C'est à nous de voir si le pigeon est en bonne santé ou pas. S'il n'est pas en bonne santé, on recherche, on essaie de trouver pourquoi il n'est pas en bonne santé. On consulte, si besoin, le vétérinaire. C'est tout un tas de choses qui font que le colombophile doit être toujours au plus près de ses pigeons, se protéger, quoi.
Là, nous avons des couples qui s'entendent relativement bien et il n'y a pas de combat organisé. Je pense que le pigeon de nature, ça doit être un animal très convivial et qui aime bien la compagnie.
Je crois que le pigeon, il doit aimer son propriétaire. Il y a les soins, c'est assez compliqué, il faut passer du temps. Quand on n'a pas beaucoup de temps, pour ceux qui travaillent, des fois on se dit, tiens, il ne fait pas beaucoup de prix, mais c'est normal parce qu'il ne passe pas assez de temps dans le pigeonnier.
Allez mon gros, allez gros.
Parler aux pigeons, bon, on n'attend pas une réponse bien sûr, mais bon, on aime leur parler.
Viens toi, viens. Allez, viens toi. Allez, viens. Allez.
Le lien entre le colombophile et le pigeon. C'est vrai qu'on a quelquefois, souvent dans nos pigeonniers, quelques pigeons qui sont très attachés à leur maître. Lorsque vous entrez le matin dans votre pigeonnier, vos pigeons vous regardent, vous les regardez. Je ne sais pas, il y a un lien qui se crée, qui se tisse entre l'amateur et le pigeon.
On leur donne des cacahuètes pour qu'ils mangent, pour qu'ils se détendent un peu, comme ça. Et des fois, on fait des bains dans une sorte de seau. On met de l'eau chaude et on leur nettoie les pattes, tout ça, le bec.
Et puis elle, surtout, elle apporte son calme. Ouais, parce que les pigeons sont sensibles, surtout à la gente féminine, ils sont plus calmes que nous. Si vous, moi je suis un petit peu énervé, les pigeons ils volent partout. Ils sentent que je ne suis pas bien et eux ils ne sont pas bien du coup. Hein. Ça rejaillit sur les pigeons. Et tant qu'avec elle, elle vient, elle leur parle et puis les pigeons se calment et tout, c'est incroyable. C'est le calmant des pigeons, Arina. Elle sert de calmant, ouais. Elle les calme.
Et souvent quand on part, c'est la bagarre pour être le premier à se baigner et prendre toute la place.
Ça me permet de penser à autre chose, qu'à l'école et tout ça.
Dans le bain, les deux qui ont pris position, c'est le couple de Carnot. Ce sont des pigeons généralement un peu batailleurs, mais bon, ils se sont bien adaptés à notre pigeonnier. Mais là, ils sont juste au milieu et puis ils regardent quand un pigeon approche, ils ont l'air de dire « c'est moi le premier et tu passeras après ».
Il faut bien les entraîner, les faire voler pour qu'ils volent mieux. Et leur donner à manger pour qu'ils aient plus de force.
Ça vaut une heure, nettoyer, laver les herbivores, remettre à boire, préparer la nourriture, parce que c'est à la cuillère, hein, c'est pesé. Et après c'est le repos, et le soir, rebelote, on refait le voler à 17h pendant une heure. Au départ on les fait voler avec des drapeaux pour leur donner un petit peu de rythme. 4 à 5 heures par jour, hein, facile. Hein.
C'est tous les jours dans les pigeonniers, matin, au soir. C'est pas partir en vacances pendant les périodes chaudes, parce que les concours commencent en avril et finissent fin août. Si on veut partir en vacances, généralement c'est au mois de septembre, mais quand il arrive le mois de septembre, c'est les réunions. Donc c'est très compliqué, et il faut que l'épouse soit très conciliante.
C'est la nourriture qui entre en ligne de compte, c'est les vitamines, les produits complémentaires que l'on donne, la façon de préparer ses pigeons. Chaque amateur a sa façon propre pour préparer ses pigeons, quoi. Même si, encore une fois, il n'y a pas de secret, quoi. Mais bon, on essaie de trouver la meilleure méthode possible pour faire revenir ses pigeons le plus vite possible, quoi.
Cette pigeonnelle, c'est la mère et la grand-mère de tous les bons pigeons qu'on a maintenant. C'est sa mimi, là, c'est la femelle qu'elle est, elle est toujours avec, quoi. Elle vient manger dans sa main, il mange des cacahuètes et tout. Hein. Elle la voit, elle la reconnaît, elle va au grillage. Hein. Mais elle a la reproduction maintenant. Elle fait des jeunes pour jouer dans la catégorie pigeonneau, quoi. On était contents de le revoir sur le toit autant de jours après. On n'y croyait plus. Et Arina, elle pleurait, elle avait son pigeon. C'était dramatique, quoi.
Il est dans un autre pigeonnier, mais je l'aime quand même. Bah, elle a une belle couleur. Elle est belle, puis la dernière fois, j'aime pas quand les pigeons se perdent, du coup, la dernière fois, elle s'est perdue 18 jours, et quand elle est revenue, ben, j'étais contente, et du coup, ben, j'ai adoré.
J'ai un souvenir phénoménal. J'avais acheté un pigeon au marché en Belgique. Je me rappelle toujours, quand j'ai pris le pigeon dans la main, mon beau-frère, il dit « Ne prends pas ça, ça va être une bricole ». C'était le coup de cœur, donc je l'ai acheté. Il était jeune. Première année, en jeune, aucun prix. Mais bon, comme je l'avais acheté, je dis, je vais le garder. Bon, pour faire, toujours, tu vois, je te l'ai dit, c'est une bricole, il faut t'en débarrasser. Je dis non, je vais lui donner la chance. Je le joue en un an après. Les premiers concours, aucun prix. Le quatrième concours, il ne rentre pas. On me téléphone. Parce que sur le pigeon, il y a une bague avec le numéro de téléphone. On me téléphone, « Monsieur, j'ai ramassé un pigeon à vous sur la route. » Je dis, « Ah bon ?» Alors, je lui demande le numéro. Je dis, « Ma, c'est le pigeon que j'ai acheté. » Mais je dis, « Vous restez où ?» À Valenciennes. Ben, je dis, « Écoutez, donnez-moi votre adresse et je vais aller le rechercher. » J'en parle à mon beau-frère. Je dis, « Mon pigeon, il a été ramassé à Valenciennes. » Je vais aller le rechercher. Il me dit, t'es fou. Il dit, ça a beau à rien. Il dit, tue-le, vous laissez-le là-bas. Je dis, non, je vais le rechercher. J'étais le rechercher. Pendant 15 jours, comme il était bien fatigué, je l'ai retapé. La troisième semaine, je le mets au concours. Il n'y a plus jamais loupé un prix. Ça a été mon meilleur. D'où, des fois, on se pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Il ne m'avait jamais fait aucun prix, mais d'un seul coup, j'étais mon meilleur. Je l'ai encore. Mais il ne vole plus, hein. Il y a la production. Hein. Mais seulement, comme c'est un peu mon chouchou, comme il ne me fait pas des bons jeunes, bon, ben, je dis, je le garde. Je crois qu'il va mourir de vieillesse.
Les jeunes amateurs, ils ne comprennent pas bien. Quand je vais chez eux, ils ont 60 pigeons, je repère, ils n'ont plus que 30. Hein. Malheureusement, il faut être très dur. Il faut sélectionner très dur, quoi. On ne peut pas tout garder.
On serait envahi de pigeons, comme vous voyez dans les clochers des villes. Donc, on est obligé de faire effectivement un tri au niveau des pigeons. On ne garde que les meilleurs, que ceux qui ont réalisé des prix. Donc, forcément, il y en a qui sont supprimés.
Parce que... un bon pigeon qui fait des prix n'est pas forcément un bon pigeon qui font des bons jeunes. Donc, le but pour un amateur, c'est d'avoir des couples qui font des bons voyageurs. Seulement, après, les producteurs commencent à vieillir. Il faut retrouver encore d'autres couples plus jeunes pour avoir de bons jeunes. Et là, ça, c'est très compliqué. Alors, généralement, parfois, on est au haut de l'affiche pendant... 4, 5 ans, et d'un seul coup, pouf, on retombe. Et il faut remonter. C'est ça le plaisir?
Effectivement, c'est le but de tout le profil, c'est de retrouver le meilleur couple possible, reproducteur, ce qui n'est pas évident, ce qui serait d'ailleurs trop facile. Si on avait tous de bons pigeons, ben, on serait tous des champions, quoi. Chaque année, en début d'année, lorsqu'arrive la période d'élevage, ben, notre but, c'est d'essayer de trouver le meilleur couple possible qui nous donne les meilleurs compétiteurs. Effectivement, dans chaque compétition, chaque week-end, il n'y a qu'un seul premier.
C'est-à-dire qu'on ne garde pas un pigeon qui ne fait pas de prix? C'est inutile. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous, on mise sur nos pigeons. On n'a pas le droit de miser sur un autre. Hein. C'est sur les nôtres. Donc, pour perdre de l'argent, ce n'est pas la peine. Déjà, comme ça, on en perd. Alors, voilà. on fait le tri déjà quand ils sont jeunes.
En fin de saison, effectivement, lorsque vous êtes obligé de faire votre sélection, comme vous ne gardez pas tous vos pigeons, vous les tuez. Je ne sais pas si ça peut se dire, mais bon, vous ne gardez pas vos pigeons. Donc, bon, il y en a qui, effectivement, les mangent. Je vous avouerai que moi, personnellement, je ne saurais même pas tuer un de mes pigeons.
Alors, il faut noter que dans l'Ancien Régime, avant la Révolution, le pigeon était un mets très recherché. On a un exemple de menu à la cour de Louis XIV, où on servait 300-400 pigeons. Bien sûr, il faut savoir qu'on était plusieurs centaines d'invités. C'est pour la viande, c'est pour les œufs, puisque avec ces œufs, on peut faire un tas de choses, au niveau pâtisserie ou autre. Et aussi pour la colombine, l'engrais, très très puissant, qu'il faut absolument diluer, mais pour la colombine. Et la taille du pigeonnier était à la mesure de la puissance financière ou territoriale du seigneur, du noble ou de l'abbaye.
Quand j'enlève les femelles, après, ils sont là, c'est pareil, j'enlève les femelles, alors ça recoupe partout parce qu'ils ne voient plus les femelles.
C'est le développement de l'orientation au départ. Hein. Vers l'âge de 2 mois et demi, 3 mois, on commence à développer le sens d'orientation des pigeonneaux. Donc on essaye de les lâcher pas trop loin au départ. Et puis on essaye de tourner un petit peu autour de la maison, qu'ils se repèrent bien. Et après on allonge les distances quand ils savent bien la route. Hein. Donc là après c'est un entraînement plus physique. Avec là c'est surtout développer l'orientation au maximum le plus jeune possible. Hein, on n'attend pas qu'ils soient trop vieux pour développer parce qu'après ils deviennent puissants et là après s'ils n'ont pas l'orientation on risque de les perdre quoi. Au départ le dernier rentré c'est peut-être le coup d'après c'est le premier rentré quoi, parce qu'il s'est trompé une fois il essaie de pas se tromper deux fois.
Le grand mystère c'est comment le pigeon peut-il faire pour revenir sans jamais avoir vu la route entre son pigeonnier et Barcelone, revenir de Barcelone, le grand mystère.
Bah c'est toute la magie de notre sport. Quoi. On ne sait pas exactement comment le pigeon fait pour se repérer. On dit qu'il a des cristaux de magnétite à la base du cerveau. On dit qu'il se repère par rapport au soleil, par rapport à différents moyens. Mais on est sûr de rien finalement. Et c'est ce qui fait toute la beauté de notre sport.
Les pigeons suivent le réseau routier, le réseau fluvial, les réseaux de relief, c'est-à-dire les vallées, les monts, les collines. Le soleil, donc son orientation, et puis le nord magnétique. Mais en mélangeant tout ça, la réponse n'est pas encore très précise. Ça reste encore un grand mystère. La colombophilie, les courses de pigeons, c'est une science encore à découvrir.
Moi, personnellement, je pense que le pigeon revient toujours pour sa femelle. Parce qu'un pigeon est fidèle à vie. D'ailleurs, ce week-end, je viens de faire un concours. Les mâles, ils sont rentrés, leurs femelles étaient dans le casier. Ils attendaient. Parce qu'on leur met leurs femelles et ils le savent. C'est pour ça qu'on pense que le pigeon revient pour la femelle. Ce qui compte pour le colombophile, c'est de voir arriver ces pigeons. De les voir revenir surtout. Alors, peu importe le nombre, le plaisir, c'est de le voir arriver du concours. De le prendre dans la main.
Il va le taper. Vous allez voir sa femelle, elle n'est pas là. C'est pas elle sa femelle.
Ben ici dans la région, les premiers prédateurs sont les rapaces, les faucons ou autres rapaces du même gabarit.
S'il rencontre effectivement un rapace, malheureusement, il a peu de chances de survivre parce que les rapaces, c'est le plus grand ennemi du colombophile à l'heure actuelle. Hein, et on en a malheureusement de plus en plus. Et ça arrive aussi de plus en plus chez nous. C'était surtout réservé aux régions montagneuses, aux pays du sud ou de l'est. Mais de plus en plus, on a des colombophiles qui, dans le Nord-Pas-de-Calais, sont malheureusement sujets à ce type de problème. Quoi. Et c'est un véritable problème chez nous.
Les pertes au cours des courses de pigeons sont dues aux camions sur les autoroutes. Les pigeons volant quelquefois en rase-motte, les autoroutes, c'est un gros problème pour les pigeons, pour les courses de pigeons.
Et puis éviter le stress au maximum, comme nous. Ils peuvent être malades après, à cause du stress aussi, parce qu'ils sont un peu faibles du coup. Hein. Et après, c'est pareil, et puis le mental, hein, c'est le pigeon qui a le plus de mental qui arrive le mieux. Hein. C'est ça. Hein. Et souvent, ils se posent. Et le lendemain, la boussole se remet, puis ils reviennent le lendemain. Ça arrive comme ça aussi. Si la météo est toujours clémente, hein, c'est toujours pareil. Hein, je regarde la météo, je ne sais pas combien de fois par jour, hein, pour aller lâcher la veille, le jour même. Je suis toujours branché météo, hein, pour savoir à peu près. Et puis les vents, en fonction du vent, parce qu'on n'entraîne pas les pigeons au départ, quand ils sont petits comme les sedarinins. Je ne vais pas les lâcher qu'un vent de nord. Un vent trop difficile, quoi, qu'ils doivent lutter trop, parce qu'ils ne vont pas lutter. Au départ, ils ne vont pas lutter. Et comme ils ont l'esprit grégaire comme ça, ils se suivent tous. Alors, s'il y en a un qui se trompe, ben, tout le reste se trompe. Hein. Et puis, c'est comme ça qu'il y a des catastrophes et que vous perdez tout. Quoi.
Ouais, monsieur, coupe les ficelles, t'as vu ? Non, vas-y, on va
On a plus. Oh. Voilà. Ça fait deux groupes.
Ces courses de pigeons, elles ont été mises en place vers 1850. La première société colombophile apparaît à Roubaix en 1848. Les courses de pigeons, le pigeon, on l'emmène à un endroit. Et il revient à son pigeonnier. Donc pour l'emmener à cet endroit, il faut être près d'une gare, puisque dans les années 1850, le moyen de transport le plus efficace ou le plus rapide, c'était le chemin de fer.
Les pigeons sont rassemblés d'abord dans le siège local. Tous ces pigeons sont emmenés par camion, dans des camions spécialement aménagés pour les pigeons voyageurs. Pour chaque camion, il y a un chauffeur, évidemment, et puis le convoyeur. Et tous les pigeons sont lâchés en même temps.
Bah, en fait, on les met dans des paniers et on les lâche, par exemple, à Écodin. Et ils doivent revenir le plus vite possible.
Mais là, l'année dernière, Arena, quatre fois d'affilée, elle a fait le minimum les deux premiers ou les trois premiers ou les cinq premiers. Pendant un mois de temps. Là. Pendant un mois, toutes les semaines, on a fait les premiers. Quoi. Donc c'est bien. Elle a joué que six concours et on a fait quatre fois. Et puis ça va vite comme ça. Elle est contente, ça dure pas trop longtemps.
Championne pigeonneau. Bah, c'est quand on fait des concours en pigeonneau. Championne féminin.
Elle ne joue que la vitesse, donc c'est en société. Parce que vous avez différentes associations. Tout ce qui est vitesse, c'est dans notre société locale. Et ça ne dépasse pas 290 km, quoi. C'est le maximum. Et donc c'est ces championnats-là qui sont surtout basés sur des concours de 150, 200, 200 km. Ce sont des sprinteurs, ces pigeons. Hein.
Et c'est vrai qu'il y a un concours qui est formidable pour tout amateur, c'est de le gagner, c'est le fameux Barcelone. Parce que c'est des milliers de pigeons qui vont être lâchés de plusieurs pays d'ailleurs. Parce que là, c'est pas que la France.
Effectivement, quand on a un pigeon qui a été engagé sur Barcelone et qui rentre à son pigeonnier, bon, c'est le plus grand, la plus grande fierté qu'on peut avoir. Quoi. C'est effectivement la plus longue distance, c'est Barcelone pour nous.
Alors le pigeon qui est lâché à Barcelone, il va voyager toute la journée. Et quand il arrive à son pigeonnier, s'il arrive, puisque là c'est une course où il y a beaucoup de pertes, c'est une star. C'est une star.
Cette année, par exemple, le premier de Barcelone est un pigeon dont le propriétaire habite en Normandie. Ça a été le seul pigeon qui a été enregistré le jour même du lâcher.
Le pigeon, quand il rentre, il a une bague électronique. L'antenne va l'enregistrer et envoyer l'information à un boîtier. Et le pigeon va être automatiquement pris en compte lors de sa rentrée. Sur le boîtier, l'heure d'arrivée est marquée. Le numéro du pigeon est aussi inscrit. Alors que l'ancienne méthode, c'est complètement différent. On a un constateur. Le pigeon, il a une bague de caoutchouc qui est mise lors de l'enlogement. Lorsque le pigeon rentre, il faut enlever la bague de caoutchouc à la patte du pigeon, le mettre dans le constateur et l'enregistrer. Faites le compte. Le plus intéressant, c'est de jouer à l'électronique. On espère toujours avoir un champion parmi les jeunes qui vont naître, mais c'est pas toujours vrai, parce qu'il faut savoir que parfois un bon pigeon ne fait pas de bons jeunes. Ça, c'est la chance. Mais quand on a la chance d'avoir un champion, c'est vrai que moi, je vous le garantis, j'ai un champion, je ne le vends pas. Il reste là.
Ouais, je change des pigeons, oui, bien sûr. Après, nous, c'est pas notre but. On est en France, on n'est pas. Il faut surtout pas que ça devienne ça, parce que l'argent, ça pourrit tout, quoi. Donc, après, dis pas que si j'en ai qui sont partis en Chine, en Taïwan, mais j'essaye pas d'en faire un commerce, surtout pas, parce que après, je vous dis, ça dénature tout. Donc, je vois plus l'intérêt de jouer les pigeons, de se faire plaisir. On est content d'avoir un champion, bon, c'est tout. Mais après, tout ce qu'on voit, ça me plaît pas trop, tous ces trucs-là. Tout ce qui est autour de l'argent, c'est pas très sain.
Oui, ben nous, on mise de l'argent, mais on n'est jamais gagnant quand on mise sur les pigeons. On est plutôt toujours perdant quand on joue à un pigeon. Donc c'est avant tout une passion.
Le premier d'un concours international, donc les concours internationaux, ce sont ceux dont les pigeons sont lâchés sur Barcelone, sur Pau, sur Marseille, sur Perpignan. Vous pouvez être sûr que lorsque l'amateur sait qu'il va remporter la compétition, le lendemain ou même quelquefois le jour même, vous avez des émissaires japonais ou chinois qui sont là à votre porte pour acheter le pigeon, pour essayer de reproduire chez eux et d'organiser des compétitions chez eux. Effectivement, actuellement, les pays de l'Asie sont très demandeurs de nos pigeons.
Il faut savoir qu'il y a quelques années en arrière, il y a peut-être 3 ans en arrière, on a un amateur français, à Saint-Omer, qui a gagné ce concours de Barcelone. Et son pigeon a été acheté 100 000 euros. Vous imaginez, 100 000 euros. Quand on a des champions comme ça, parfois même les œufs sont rachetés et ça peut aller jusqu'à 20 000 euros pour un œuf. Ça fait cher l'omelette quand même.
Le pigeon voyageur qui a gagné la course de Barcelone, c'est un pigeon belge. L'année dernière, ce pigeon a été vendu à un éleveur chinois pour 300 000 euros.
Il y a de la jalousie, malheureusement, hein. C'est ça le problème. Mais nous, non. Quand on a envie de jouer, on joue. Quand on n'a pas envie, on joue pas. On s'en fout. Ça vient, ça vient. Ça vient pas, ça vient pas. On se prend pas la tête, quoi. Et donc, on le vit mieux, je pense. Si vous voulez, parce que quand j'étais plus jeune, je voulais surtout gagner. Maintenant, non. Je veux surtout me faire plaisir. Donc, quand ça devient un plaisir, c'est toujours mieux que. Il y a moins de contraintes. Il y a moins de contraintes. Si bien les contraintes, j'en veux pas. Donc, si ça va pas, j'arrête. Si j'ai pas envie de jouer, je me sens pas bien, je joue pas, quoi. On se fait que plaisir. Moi, on a de la satisfaction.
Il n'y a pas trop de jalousie entre les colombophiles, mais il y a quand même une grosse concurrence. On est toujours bien content de battre le champion. C'est ce qui compte avant tout, sinon on ne jouerait pas.
On cherche des colombophiles, on est invité chez eux, on discute, on regarde, n'importe où en France. On a beaucoup de copains en Normandie, on a beaucoup de gens un peu dans toutes les régions de France, grâce aux pigeons, quoi. On connaît beaucoup de monde grâce aux pigeons, mais après on s'intéresse surtout au côté humain, quoi. Hein, plutôt que ce côté compétiteur.
Oui, bah, les amis colombophiles de papa, je les vois toujours au local de Denain. Donc on se parle et ils me disent plein de conseils, voilà, comme ça, comme papa. Il y a ceux qui les mettent au concours et il y a aussi au bar, ceux qui veulent aller au bar, comme ça.
Si dans la région du Pas-de-Calais, la colombophilie est davantage connue, dans certaines régions de France, c'est tout à fait une inconnue. Donc le but est de faire connaître au maximum notre passion en organisant effectivement, dans le même style que le Tour de France cycliste, un Tour de France colombophile sur une quinzaine d'étapes, environ 3 semaines. Chaque jour, il y a 5 pigeons d'un colombier différent qui participent à cette étape. Et le but, c'est avant tout de nous faire connaître. Ce n'est pas dans un esprit de compétition. C'est avant tout de nous faire connaître, quoi.
Les colombophiles vieillissent. Nous, on a une moyenne d'âge chez nous, à Montigny, qui est de 60 ans. Donc, on espère toujours voir arriver des jeunes. Mais pour accrocher les jeunes à la colombophilie, bah, il faut savoir que démarrer, ça coûte très cher. Il faut monter un pigeonnier qui coûte entre 2000, voire beaucoup plus que ça. Alors démarrer avec un petit pigeonnier, c'est bien. Ensuite, il faut acheter la licence, il faut acheter des bagues. Mais après, il faut acheter aussi des sacs de grains. Un sac de grains, en moyenne, c'est 15 euros. Il faut acheter des vaccins. Quand on commence, il faut acheter aussi l'appareil pour constater les pigeons. Voilà. Alors, appeler un jeune à la colombophilie, ben, ça devient de plus en plus difficile. Ou alors il faut vraiment le démarrer complètement et tout lui offrir. Mais c'est pas prêt de se faire.
Si on n'aide pas les jeunes, ils n'arriveront plus. Hein. Avec leurs moyens maintenant, c'est difficile. Et ce qui est spécial en colombophilie, c'est que vous êtes débutant ou chevronné, vous participez au même concours. Hein. Si vous ne les aidez pas, ils n'ont pas beaucoup de chances de vous battre. Hein. Donc il faut leur donner quelques bons pigeons, mais surtout les bons conseils et puis faire l'aménagement de leur colombier, quoi. C'est ce que je fais au maximum, mais je ne peux pas le faire avec tout le monde, mais j'essaie d'en faire 3-4 qui se sont bien révélés en 2015. Hein. J'ai mon filleul qui est champion Nord-Pas-de-Calais de toute catégorie aussi, et ma fille, bien sûr, et puis un autre colombophile sur Aniche là, qui commence à jouer, je l'ai pris sous mon aile, et puis il voulait jouer les internationaux, et il a très très bien joué au club en 2015. Quoi.
Thank you.